Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Mardi 26 octobre, bonne journée, bienvenue au 98,5. J'écoutais le descriptif de Bénédicte sur le pédophile. Le procès est retardé. Si on résume, là, c'est un récidiviste. C'est quelqu'un qui produit, distribue du matériel qui implique des enfants. Puis parmi les victimes, sa propre fille de 4 ans. C'est dégueulasse. Je veux dire, puis hier, il y avait un autre cas en cours d'une autre personne qui a plaidé coupable. Il n'y aura pas de témoins à faire entendre. Puis là, on va revenir dans son cas. Mais sérieusement, là, ces malades-là qui produisent autant de matériel puis qui en consomment puis qui utilisent leurs propres enfants. Je pourrais vous raconter des cas. Je ne ferai pas exprès ce matin. Là. Il est 6h05, on déjeune, on prend un café ensemble. Mais c'est épouvantable. Et hier, la Fondation Marie-Vincent a rendu public des chiffres concernant justement cette violence faite aux enfants, faite aux petites filles. Et quand tu dis que 20% des ados voient des photos d'elles-mêmes circuler sur des réseaux sociaux, partagées sans leur consentement, c'est énorme. C'est énorme. Et ces images-là, t'as beau essayer de les faire disparaître, continue. Puis là, il y a ce cas à Granby, en fait, c'est à Trois-Rivières le procès, c'est la petite fille de Granby, où on apprend donc qu'elle s'est sauvée en pleine nuit de la maison de la belle-mère puis de son père. Elle est cognée chez le voisin, lui a mal entendu. J'imagine qu'il doit être habité par ça. Puis là, quand il a vu que la belle-mère était dehors, elle semblait agitée, la voix nerveuse. Et finalement, elle dit « Ben, elle s'est sauvée encore, puis je la cherche. » Je ne voudrais pas que ça fait beaucoup de violence à l'endroit des enfants. Puis les cas comme ça, il y en a au quotidien. Puis il y a des auditeurs qui m'écrivent « Parlez pas de ça, parlez pas de ça, donnez pas de détails. » Je m'excuse, il faut parler de ça. Puis oui, il faut donner parfois des détails, tout en gardant une certaine limite, je dirais. Bon, remaniement ministériel ou composition du nouveau gouvernement à Ottawa. Là, les rumeurs circulent, Globe and Mail, la presse ce matin. M. Trudeau voudrait donner une nouvelle image, un nouveau souffle à son gouvernement. Et il semble que Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères, va se faire tasser. Et habituellement, c'est la même recette. Peut-être qu'on a voulu qu'il quitte, il n'a pas accepté. Il se présente, compte est facile, il est élu. Et là, on dit, ben, tu ne seras pas au gouvernement. Stéphane Dion s'était fait tasser aussi, on l'a nommé en Allemagne. Et là, dans le cas de Marc Garneau, c'est un autre poste diplomatique qui l'attend. On ne sait pas où exactement, mais le poste d'ambassadeur du Canada à Paris, très prestigieux, demeure vacant. Alors, M. Garneau quitterait le ministère des Affaires étrangères, ce qui pourrait peut-être signifier le retour de François-Philippe Champagne, qui avait ministère, vous le savez, à vocation économique, s'occupait de l'innovation, des sciences et de l'industrie. Autre rumeur, c'est que Stephen Guilbeault passerait à l'environnement. Ça fait longtemps que ça circule, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Puis Bernard a abordé le sujet en disant « Oui, mais est-ce que ça passe nécessairement, là, la cause verte par l'environnement? Il y a d'autres ministères où il y a des impacts. » Il semble que l'actuel ministre, M. Wilkinson, pardon, s'en irait vers les ressources naturelles, parce que là aussi, il y a des enjeux importants. Puis Mélanie Joly aurait un poste également, une promotion. Elle aurait déjà indiqué son intention de regarder d'un peu plus près des ministères à vocation économique. Alors, c'est ce matin que M. Trudeau va annoncer la composition de son gouvernement. Bon, parlons du réseau de la santé. Le premier ministre François Legault est dans une partie de bras de fer avec les médecins omnipraticiens du Québec. L'enjeu est assez simple. Les Québécois sont tannés de ne pas avoir un accès raisonnable à un médecin de famille, je dirais de façon générale, et plus particulièrement les soirs et les fins de semaine. Je regardais ce matin tableau à l'urgence d'occupation de civière, là, des patients à garder, donc qui sont malades. 117, 130 %, c'est pas inhabituel. Mais ça s'inscrit dans un réseau qui est malheureusement assez mal organisé, avec un manque de personnel, ferme des urgences, on a vu ça, pour des périodes X à la Chine. Donc, cette partie de bras de fer, puis le message que les Québécois envoient aux deux parties, là, au gouvernement, puis aux docteurs. On paye cher, vous avez droit à un salaire puis une rémunération convenable, puis c'est vrai qu'il y avait du rattrapage à faire, mais là, on veut être capable d'obtenir des rendez-vous. C'est la maison des fous. Elisabeth donnait un exemple hier, c'est la mère d'un député. C'est pas parce qu'il est député que c'est pas plus compliqué ou moins compliqué, c'est parce que t'arrives la fin de semaine, tu veux pas aller à l'urgence. C'est pas ta place, mais tu dois voir quelqu'un. Comment tu trouves un rendez-vous? C'est compliqué. Ce matin, Le Devoir nous dit que 15 % des médecins de famille prennent en charge moins de 500 patients. Là, habituellement, Québec dit que ça serait bien 1000. Alors, pourquoi ils ne prennent pas plus de patients? Pour sorte de raison. Il y en a qui ont peut-être d'autres tâches. Il y en a qui décident de travailler moins. Il peut y avoir un paquet de facteurs. Deuxièmement, un des sujets tabous commence à être discuté sur la place publique. C'est qu'on se rend compte que la relève en médecine, principalement composée de femmes, il y a des hommes aussi, donc les jeunes médecins, les plus jeunes, il y en a un paquet qui partent à la retraite dans les prochaines années, puis il y en a qui arrivent. Ben, ont pas nécessairement envie de travailler autant d'heures. S'ajoute le phénomène des congés parentaux, qualité, travail, famille, là, espèce de mariage des deux. Je me souviens qu'à l'époque, Gaétan Barrette avait dit ça, puis il s'était fait ramasser en disant « vous êtes sexiste, épouvantable ». Est-ce que des femmes médecins majoritaires décident de travailler moins d'heures? Puis là, hier, j'ai reçu plein de courriels de médecins qui travaillent dans des GMF qui me disaient « Legault, c'est même pas ce qui se passe dans un GMF quand il prétend qu'il y a du monde pour faire notre paperasse, c'est pas vrai ». Fait que les médecins qui travaillent beaucoup d'heures, ça les choque quand ils entendent ça. Mais c'est quoi la solution? Toujours le même discours que j'entends du côté syndical. Ben là, il faut ajouter des médecins. OK, il faut ajouter des médecins. Puis là, la médecine familiale, ça attire pas de monde. Puis il faut demander aux médecins spécialistes de faire plus à l'hôpital pour qu'on ait moins de médecins omnipraticiens qui soient dans les hôpitaux. Parce que nous autres, au Québec, on a un modèle. Savez-vous quoi? Je pense que les Québécois sont un petit peu tannés. Et tapent du pied parce qu'ils veulent avoir accès à un médecin. Quand tu regardes combien ça coûte puis combien on paye collectivement là, en termes de taxes, on a le droit à un service. Puis la pandémie montre quand même qu'il est possible, parfois, quand on veut, puis que les gens pensent, comme on dit, en dehors de la boîte puis collaborent, de faire un certain nombre de choses qui ne seraient pas possible en temps normal. Alors, vous lirez ça ce matin. On apprend également qu'il y a, c'est à Radio-Canada, plus de 1 million de dollars qui ont été payés aux travailleurs de la santé non vaccinés. Alors, ceux qui voulaient rien savoir puis qu'il fallait tester, ben, on les testait et on les payait pour aller se faire tester. Là, c'est mis de côté. Ils font ça en dehors des heures puis ils font ça sur leur temps. Mais ça a coûté quand même 1 million juste aux CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal. C'est 900 000 à des travailleurs non vaccinés. C'est 2 000 employés qui ont été visés par cette mesure. On n'avait pas les moyens de les faire tester en milieu de travail pour toutes sortes de raisons. Parlons des élections à Montréal. Hier, un autre débat entre Valérie Plante et Denis Coderre. Les deux vont devenir, je dirais, plus performants d'une chorégraphie à l'autre. Tu sais, quand tu fais je ne sais plus combien de débats, et les thèmes évoluent, mais la base reste quand même... la même. J'ai jeté un coup d'œil hier. D'abord, j'ai trouvé ça mieux que d'autres débats, moins cacophoniques, moins d'agressivité. faut qu'il y ait une certaine tension, là. C'est des gens qui partagent des points de vue différents. Mais disons que c'était pas mal plus écoutable. Et ce qui est intéressant, d'abord, puis on le dit depuis le début, même si on finit toujours par gouverner au centre, on a quand même des gens qui ont des approches différentes. Puis hier, sur la question du logement, sur la question de la police, sur la question également du centre-ville, de la relance économique, on a senti quand même des éléments différents. Puis je pense que comme Montréalais, c'est ça qu'il faut écouter. Prenons le cas de la police. Denis Coderre, c'est assez simple, il dit « moi, je rajoute des policiers, 250 ». Ça a été salué par la fraternité. Ce qui n'empêche pas le travail là, de prévention puis le travail groupe communautaire. Puis dans le cas de Projet Montréal, on s'entend, c'est pas dans leur ADN. Puis disons que c'est une conversion tardive. Parce que ça pète dans différents arrondissements puis que c'est une préoccupation pour beaucoup de citoyens. Deuxième exemple sur le logement. Là, on présente Coderre comme étant le défenseur des promoteurs immobiliers. Et Projet Montréal qui dit, nous autres, on a une approche qui vise à favoriser l'accès. Réponse de Coderre, moi j'abolirais la taxe de bienvenue, qui est une taxe scandaleuse, qui gonfle avec le prix des propriétés. Et que ce soit pour quelqu'un dont c'est le 10e achat ou quelqu'un qui en est à sa première transaction, c'est un montant de plus en plus important. Puis il est temps que les villes sortent de leur dépendance aux taxes foncières. Puis c'est pas non plus interdit que des villes se questionnent sur leur poste de dépense. Tu sais, Montréal, là, puis des villes, tu sais, ça dépense. Est-ce qu'on est assez productif? Est-ce que, par exemple, la question du logement, c'est une responsabilité montréalaise à ce point? Pis c'est vrai que c'est un enjeu. Parce que t'as beau avoir des gens qui vont gagner plus cher, puis notre ami Luc Ferrandez en a fait la démonstration. Comment peux-tu vivre à Montréal dans un logement avec, disons, salaire là, de deux éducatrices en garderie, une éducatrice avec... Tu sais, là, même si tu gagnes 40, 50, 60 000, la part que tu dois consacrer au logement, c'est majeur. Donc, il y a quand même des enjeux. Puis j'espère que vous allez aller voter. On parle de Montréal, mais dans vos villes respectives. Moi, je trouve pas que le centre-ville de Montréal, malgré les études qu'on nous présente, est en pleine forme. Je suis pas convaincu que les gens vont se précipiter dès le mois de janvier pour venir à temps plein au centre-ville. Je pense que le télétravail est là pour rester. Puis ça a un impact direct sur la mobilité puis le transport. Fait que, tu sais, au-delà des personnages puis au-delà des mini-scandales qu'on débusque à gauche puis à droite, tu sais, qui vous souhaitez diriger votre ville? Montréal, Laval, Longueuil? Puis qui est capable de penser à une autre façon? Tu sais, je donne juste l'exemple là, des pistes cyclables. On n'est pas contre. J'habite Montréal. Je suis pas contre ça. M'en sers. Quand je me promène en vélo. Mais est-ce qu'on peut en parler au monde plutôt que de te rentrer ça dans la gorge, faire disparaître des espaces? Puis là, on comprend pas pourquoi les gens sont choqués. Puis ça, là, dans beaucoup d'arrondissements de Montréal, c'était le cas. Tu sais, je me souviens sur Christophe Colomb, personne qui avait une place en face de chez elle pour handicapés, qu'on a enlevé en disant « va te stationner ailleurs ». Fait que cette espèce de réflexe d'opposer les gens qui sont en vélo puis les autres citoyens. Puis il y a des gens, tu sais, on change les arrêts d'autobus. Tu sais, cette espèce de mépris, souvent... Quand t'es pas dans la clientèle recherchée, là, ben tes préoccupations puis tes priorités sont pas tellement considérées. Mais en tout cas, j'ai trouvé hier que le débat avait pris un peu de gueule. Notre patron, Louis Audel, patron de Cogeco, faisait un discours hier devant le Cercle canadien de Montréal et il a proposé d'augmenter jusqu'à environ 20 $ le salaire minimum. Qui est quand même pas rien. Et j'ai pas mal aimé, pis c'est pas parce que c'est mon patron que je dis ça, là, mais j'ai pas mal aimé l'approche. En disant les grenailles à coup de 25 cents pas à coup de 50 cents qui changent pas grand-chose dans la vie du monde, là, on devrait passer une autre approche. Et il dit que qu'il y a des différences entre les niveaux de rémunération, ça s'explique, ça se défend. Mais, dit-il, les forces du marché laissées à elles-mêmes menacent la stabilité des démocraties à moyen et long terme. Puis on le voit actuellement avec vieillissement de la population, recherche de main-d'œuvre, t'as pas le choix de payer plus pour obtenir des employés, pour avoir des employés puis les garder, qui ont du talent puis qui veulent travailler aussi. Et moi, j'ai hâte de voir... Bon, la réaction syndicale est facile à deviner parce qu'ils sont d'accord avec ça. J'ai hâte de voir la réaction de d'autres entreprises parce qu'à chaque fois, là, notamment les lobbies, disons, économiques un peu plus à droite, qui viennent fous parce que le salaire minimum augmente de 25 cents, puis là, tel PME pourra pas, puis vous allez créer de la perte d'emploi, puis vous allez tuer des entreprises. C'est pas d'augmenter ça tout d'un coup. Mais regardez ce qui se passe actuellement. Il y a des gens qui pensaient pas augmenter leurs employés dans les restaurants, dans d'autres commerces de première ligne, puis qui ont été obligés de le faire. Fait que de laisser le marché se gérer, ça peut, en période de crise, peut-être fonctionner. Mais disons que c'est une idée intéressante qui fait pas mal jaser ce matin. Ensuite de ça, je parlais tantôt du réseau de la santé. On donne des exemples ce matin dans le Journal de Montréal, puis pas juste des infirmières, là, des enseignantes, des éducatrices qui ont décidé de revoir leur vie, de quitter. Il y en a une qui m'a écrit hier aussi, qui quitte après 20 ans dans les CPE. Tantôt, on va parler avec une policière qui quitte après 21 ans de service. C'est pas où les gens vont, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui décident de revoir leurs priorités de travail. Dans la presse ce matin, on a le tableau des plus gros pollueurs du Québec. Pas de surprise, c'est Ciment Mécanis. Et l'entreprise va non seulement continuer d'être probablement la plus polluante, mais aussi, ça va s'accroître parce qu'elle n'a pas atteint sa pleine capacité. Vous retrouvez, bien sûr, des alumineries. Alors, vous pourrez lire ça ce matin. Et également, on va parler plus tard de Facebook, encore une fois, des révélations. En gros, là, ce qu'on apprend de Facebook, c'est que Facebook sait depuis longtemps qu'il y a de la désinformation sur ses pages, que ses systèmes de traduction à travers le monde, dans des pays, justement, où la désinformation peut amener non seulement des débordements, mais du carnage, là. Facebook est au courant de tout ça. Désinformation, propagande haineuse. Puis je lisais ce matin un truc. Ils se sont penchés sur le phénomène chez les jeunes. Tu sais, les likes, bien important les likes. Si je suis pas liké, ça me crée de l'anxiété. Puis j'aime pas ça, puis le monde m'aime pas. Et l'idée, c'était, est-ce qu'on fait disparaître pour certains types d'abonnés cette référence-là de j'aime ou j'aime pas? Et on mesurait ce que ça voulait dire. Et les patrons de Facebook ont dit, pas grave, on continue avec ça. Et cette mainmise de Facebook, parce que c'est Instagram aussi, c'est un paquet de plateformes, il y a quelque chose d'assez surnaturel de voir un joueur aussi gros avoir autant de pouvoir, être au courant de tous les dérapages possibles, et jusqu'à maintenant, essayer d'expliquer aux élus américains et aux gens qu'ils sont de bons citoyens corporels.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Ça fait des lunes qu'on a cette discussion sur l'accès à un médecin de famille. On a vu le cas hier du député de Québec solidaire, Zanetti, cherchait un rendez-vous pour sa mère, puis c'était la maison des fous. La prise de rendez-vous dans les 100 rendez-vous, puis ça variait d'une heure à l'autre. Ça fait des lunes qu'on discute du nombre de Québécois qui n'ont pas accès à ce médecin de famille. Puis je vous parle de ces Québécois qui ne veulent pas aller attendre à l'urgence, prendre la place de patients qui ont besoin d'être là. C'est pas un cas d'urgence, c'est quelqu'un qui a besoin de voir un médecin, malheureusement, un soir ou la fin de semaine, puis de façon plus générale, qui a besoin d'un suivi. Tous les jours, j'ai des courriels. Je fais le point ce matin avec le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le docteur Louis Godin. Docteur Godin, bonjour.
Oui, bonjour, Cirque.
Je vais faire entendre un extrait de l'entrevue qu'on a fait hier avec le premier ministre du Québec, François Legault, où il parle de votre syndicat. On va écouter ça, puis je vous reviens après.
Je peux vous dire, moi, dans ma vie, là, autant dans le privé que dans le public, j'ai négocié avec des syndicats, la CSN, la FTQ, mais le syndicat qui est le plus puissant, il s'appelle la FMOQ, la Fédération des omnipraticiens. Et surtout à Montréal, là, c'est très difficile de les obliger à prendre en charge un certain nombre de patients.
Docteur Godin, c'est vous le président du syndicat le plus tough que François Legault a vu?
C'est ce qu'il semble dire, là.
Ah non, il semble pas, c'est ce qu'il dit, là.
C'est ce qu'il dit. Écoutez, pourquoi il dit ça? Nous, c'est pas notre perception, là. Je veux dire, nous, on négocie toujours de bonne foi. Encore présentement, on cherche là, vraiment à trouver une entente pour améliorer l'accès, parce que vous l'avez dit en introduction, c'est très difficile. Est-ce que c'est pour nous démoniser un peu, là? Je vous dirais, on parle des médecins, on dit qu'ils travaillent pas suffisamment, donc on négocie avec leurs représentants. Il faut peut-être dire qu'ils sont très durs, que c'est très difficile de négocier avec eux pour d'utiliser la méthode forte, là, mais... Ce que je sais, c'est que moi, je négocie de bonne foi puis qu'on cherche des solutions.
OK. Prenons des faits. Le Devoir ce matin nous dit que près de 15 % des médecins de famille au Québec prennent en charge moins de 500 patients, alors qu'on s'attend à ce qu'ils en prennent 1000. Pourquoi il y a 15 % des médecins qui ne prennent pas plus de 500 patients?
Ben, c'est ça qu'il faut regarder attentivement. Nous, on a fait cet exercice-là. On a regardé ce que font ces médecins-là et qui ils sont. D'abord, souvent, ce sont des gens qui sont en début de pratique ou des gens qui sont en fin de pratique. On sait qu'il y a 25 % des médecins qui ont plus de 60 ans. Donc, c'est normal qu'à 65, 70 ans, souvent, plutôt que prendre ta retraite, tu vas accepter de continuer à travailler un peu. On a aussi des gens qui travaillent dans des secteurs où on ne peut pas inscrire beaucoup de patients. Deux exemples, les gens qui travaillent en soins à domicile. Ces gens-là ne peuvent pas inscrire 1000 patients. On sait là, qu'un temps plein en soins à domicile va couvrir environ 150 patients. Et de la même façon, les gens qui s'occupent de clientèle comme les toxicomanes, les gens qui souffrent de dépendance, les gens en itinérance, c'est difficile d'inscrire ces patients-là et d'en inscrire beaucoup. Il faut être très, très prudent dans l'analyse des chiffres bruts pour prendre le temps de regarder ce que font ces médecins-là.
Je vais vous faire un portrait, là, puis vous me direz si c'est ça. Autrement dit, là, on a 25 % vous avez dit que c'était des jeunes médecins, c'est ça?
Non, on a les médecins en pratique là, qui débutent leur première année de pratique, à peu près 450 médecins à chaque année.
OK. Est-ce que je me trompe? Si je dis, on a un paquet de médecins qui, bientôt, vont partir à la retraite, d'une part. D'autre part, on a des jeunes médecins qui ont une autre culture, qui ne veulent pas travailler autant. Puis on a une majorité, ce sont des femmes médecins, qui ont donc des congés parentaux, comme hommes médecins, mais bref, peut-être moins d'heures à consacrer au travail. Puis qu'en plus de ça, il y a des gens qui font du travail à l'hôpital, des gens qui ont d'autres tâches, l'enseignement... Que bref, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas prendre de patients.
Bien, c'est pas des raisons pour ne pas
prendre de patients. Bien non, mais ce sont des faits, là. Ils partent à la retraite, ils travaillent moins, ils enseignent, ils sont à l'hôpital.
Est-ce que vous reprochez, je veux dire, un médecin qui a 65, 70 ans, qui décide de continuer à travailler un peu et à suivre une partie de sa clientèle qui suivait depuis des années, il le fait ça plutôt que de quitter à la retraite? Vous parlez des jeunes médecins. Les jeunes médecins, quand ils commencent, ils travaillent au bureau, à l'occasion, mais le plus souvent, on les envoie travailler à l'hôpital parce qu'on a besoin, je veux dire, de les envoyer là. Oui, effectivement, vous le dites, les médecins de famille du Québec travaillent dans leur bureau, travaillent aussi à l'hôpital. C'est la réalité, je veux dire, dans laquelle on est. Même la loi les oblige souvent à faire des activités en établissement. Le problème de fond, c'est que finalement, on manque de médecins, on essaie de nier ça, on a de la misère à en former parce que les étudiants boudent la faculté de médecine, mais ça préoccupe pas le gouvernement.
Attendez.
Ça les préoccupe pas.
OK, bien des choses dans ce que vous dites. Les étudiants boudent la faculté de médecine?
Bien, on a eu 70 postes qui sont demeurés vacants résidence en médecine familiale.
OK, ils boudent pas l'université, ils boudent la médecine familiale.
Ils boudent la médecine familiale, effectivement, excusez-moi.
OK, donc ils ne sont pas intéressés par la médecine familiale. Ça s'ajoute aux autres constats que je viens de vous faire. Mais les gens qui m'écoutent ce matin, là, puis qui vous écoutent, Dr. Godin, c'est un peu, là. Ça fait des années qu'on répète ça, là. Qu'il y a des départs à la retraite, que les jeunes médecins arrivent, pas la même tout à fait philosophie, qu'ils manquent de on tourne en rond. La seule affaire qu'on sait, là, ça nous coûte des milliards à chaque année. Vous dites que vous êtes de bonne foi. Le gouvernement dit qu'ils sont de bonne foi, mais que là, ils vont serrer à la vis parce qu'il y a des médecins qui voient pas assez de patients. Les médecins qui m'écrivent dans des GMF disent « il y a de la paperasse ». On s'en sortira jamais. On sera jamais capable de donner un accès le soir, la fin de semaine, à des patients, des parents qui veulent voir un médecin. Puis ça va nous coûter de plus... La conclusion, Dr. Godin, ça va coûter toujours plus cher, puis il n'y aura pas plus d'accès.
Monsieur Arcand, on demeure quand même confiant que si de part et d'autre...
Ça fait combien d'années que vous êtes confiant?
Je travaille pas seul là-dedans, là, Monsieur Arcand. Là. Moi, je travaille avec le gouvernement, je travaille avec les moyens qu'ils nous donnent. T'sais, vous parlez des GMF actuellement, là, il y a 25 % des infirmières qui sont supposées d'être là qui sont pas là. Bon, ceci étant dit... On doit travailler.
Mais pourquoi qu'elles sont pas là?
Parce qu'il y en manque ailleurs, il y en manque à l'hôpital, puis il faut que tu les prennes dans le GMF, tu les envoies à l'hôpital. On va fermer là, l'hôpital de la Chine, là, l'urgence, là, certaines heures parce qu'on manque de personnel. Mais tout ça, ça a un effet domino à l'intérieur de ça. Et il faut, je vous dirais, travailler sur deux éléments. À court terme, il faut essayer de réorganiser nos pratiques pour rendre des rendez-vous rapides, plus les fins de semaine, le soir, même le jour à l'intérieur de ça. Et à moyen terme, il faut former plus de médecins, il faut attirer plus d'étudiants vers la médecine familiale, parce que effectivement, on reste avec un problème de fond. On manque de médecins. C'est malheureusement ça. Et le gouvernement semble nier ça. S'appuie sur des ratios disant qu'on a autant de médecins au Québec qu'ailleurs au Canada, alors qu'on sait très bien que la pratique des médecins de famille au Québec est fort différente de celle ailleurs au Canada.
Alors, est-ce que ça veut dire que pour améliorer l'accès, il faudrait sortir, peut-être pas à temps plein, là, mais sortir les médecins omnipraticiens, médecins de famille des hôpitaux, puis d'augmenter la tâche des médecins spécialistes, c'est ça que vous me dites?
C'est sûr que c'est quelque chose, je veux dire, qui aiderait si on avait moins de travail à faire à l'hôpital. Mais encore là, faut-il être capable de le faire? Qui va aller remplacer les médecins de famille qui travaillent dans les urgences du Québec? Qui va aller remplacer les médecins de famille qui hospitalisent les patients? Les médecins spécialistes en ont déjà fait un peu plus, mais probablement qu'eux aussi ont d'autres tâches à faire. Il reste toujours le problème fondamental. Si vous, au cours des 7 dernières années, on a 425 postes qui sont restés vacants en résidence en médecine familiale. Si on avait eu ces 425 postes-là, on serait pas dans la situation d'aujourd'hui, puis on arrêterait de toujours mettre ça sur le dos des médecins de famille, puis dire qu'ils travaillent pas suffisamment, puis qu'il faudrait qu'ils travaillent plus fort, alors qu'ils font une charge de travail identique, sinon supérieure à tout ce qui se fait ailleurs au Canada et qui travaille déjà très fort.
Je partage avec vous un commentaire que j'ai entendu, dans l'univers politique, que si jamais le gouvernement utilise la manière forte, c'est-à-dire là de réduire la rémunération si on n'a pas atteint les cibles en termes de prise en charge des patients, c'est que c'est rendu tellement payant qu'à 3 jours/semaine, même si vous coupez 4 jours/semaine, les médecins de famille, pas grave. Coupe-moi, ça me dérange pas.
Regardez, M. Arquin, on les a regardés, ça aussi, ces chiffres-là, les médecins qui supposément là, travaillent juste 3 jours ou 4 jours/semaine. Là. Ceux que le Dr Barrett traitait là, de paresseux, là, je veux dire, il y a quelques années. Là aussi, je vous dirais, on est capable d'expliquer là, très facilement quels sont ces médecins qui travaillent moins. Souvent, je vous dirais, là aussi, des gens qui sont en début de pratique, parce qu'on mesure les activités cliniques durant une année. Nos omnipraticiennes qui ont accouché récemment, des gens qui sont en invalidité, nos médecins plus âgés, nos médecins qui font aussi de l'administration, puis eux autres, l'activité administrative n'est pas comptée. Les médecins de famille du Québec, ils travaillent fort. Arrêtons de toujours les accuser qu'ils ne travaillent pas suffisamment.
Okay, mais le bon peuple,
ça devient insultant.
Je comprends, mais je suis d'accord, puis j'en connais, puis habituellement, ceux qui se plaignent sont ceux et celles qui travaillent le plus fort. Mais le bon peuple est tanné, Dr. Godin. Le bon peuple, là, il en a plein son casque. Il y a des parents, chaque fin de semaine, là, c'est le casse-tête. Comment je fais pour me trouver une place? J'aboutis à l'urgence, j'attends 18 heures, j'ai pas d'affaires là pour me dire à un moment donné, ben sais-tu, essaie donc d'aller voir dans une clinique si on pourrait pas t'accueillir. C'est comme ça depuis Mathusalem, puis il n'y a rien, tout le monde est de bonne...
Je vous répète, là, c'est une situation qui nous préoccupe énormément. On a discuté, vous savez, on a discuté il n'y a pas très longtemps là, des prises de rendez-vous. Là. Et je lisais hier justement l'article de M. Zanetti là, qui s'est buté là, à toutes sortes de systèmes de rendez-vous. On nous promet un système de rendez-vous unique. Vous vous rappelez, là? On s'est parlé de tout ça.
Ah, l'orchestrateur, monsieur, je suis ça avec grand intérêt, puis ça marche pas.
Avec grand intérêt, hein? Bon, ça fait au-delà d'un an, là. Puis je veux dire, on n'a pas avancé là-dessus. On est encore dans le déploiement. On a encore toutes sortes de systèmes de rendez-vous, des systèmes maison, RVSQ, Bonjour Santé. On a tout ça. Et là, on espère que le jour 1 où tout ça va marcher, là, dans le temps de le dire, on va être capable d'installer ça partout. Mm-hmm. À un moment donné, là, on peut pas faire ça tout seul du côté des médecins de famille. On a suggéré beaucoup de choses au gouvernement. On en suggère encore. On va espérer qu'il va choisir cette solution-là de travailler avec les médecins de famille. Puis en même temps, je vous dirais qu'ils nous aident un peu, là, qu'ils réduisent la paperasse qu'on a à remplir, là, les formulaire là, en 5 copies là, pour réussir à avoir une consultation ou permettre qu'un patient ait ses médicaments, là, qui nous permettent de nous libérer du temps comme ça, qui nous fournissent le personnel qui doit nous fournir. Puis nous autres, de notre côté, on va essayer là, de réorganiser nos pratiques à court terme pour augmenter
c'est quand En terminant, c'est quand la prochaine séance de négo avec le gouvernement?
Ben là, on les a rencontrés jeudi dernier. On est en attente de leur retour.
OK. Merci, Dr. Godin.
Merci, monsieur.
Au revoir. Dr. Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. On est mardi. Si vous prévoyez d'être malade samedi ou dimanche, ben commencez déjà à planifier et prendre un rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, tableau ce matin des plus gros pollueurs du Québec. C'est publié dans la presse. Il n'y a pas une surprise dans ça. C'est-à-dire de découvrir que la cimenterie Mekanis est devenue le plus gros pollueur et que la cimenterie n'a pas atteint non plus sa capacité maximale de production. On retrouve également des alumineries. Et on va faire le point à la fois sur ces pollueurs, mais en même temps, je dirais, sur le portrait de la lutte pour réduire les gaz à effet de serre au Québec avec Pierre-Olivier Pinault, qui est professeur et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Monsieur Pinault, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcand.
D'abord, d'apprendre que la cimenterie Mekanis est le plus gros pollueur, c'était assez prévisible.
Oui, absolument. Ça fait plusieurs années qu'on sait que les émissions, qu'on voit dans les bilans que les émissions de Mekanis augmentent. C'est prévu, on le savait, et c'est comme vous l'avez mentionné, là, ils augmentent leur production petit à petit. Alors, ils deviennent les premiers émetteurs de gaz à effet de serre au Québec.
Bon. Les autres secteurs où on émet beaucoup, il y a tout le secteur, bon, industriel des alumineries, par exemple, secteur également pétrolier. Est-ce que, quand on prend ces compagnies-là, ça représente, disons, ce qu'il y a de plus sérieux comme émissions de gaz à effet de serre, ou s'il faut regarder ailleurs pour avoir un portrait plus juste?
Ben, c'est-à-dire, pour avoir le portrait global du Québec, il faut vraiment regarder l'ensemble des émissions québécoises. Et le premier secteur d'émissions, c'est nous, les usagers de transport, c'est à travers nos véhicules, les camions lourds. C'est ça le plus grand secteur d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. Donc, c'est moins concentré parce que c'est dilué dans tous les citoyens du Québec, mais c'est le plus gros. Et après, il y a évidemment l'industrie, comme vous l'avez mentionné, où c'est très concentré dans quelques acteurs. Et puis, il y a évidemment des plus petites industries, des plus petits secteurs industriels qui émettent beaucoup. Il y a l'agriculture, on l'oublie souvent, c'est 10% des émissions québécoises, ça vient de l'agriculture, et le secteur des déchets, et enfin le secteur des bâtiments, le chauffage. Il y a encore beaucoup de bâtiments qui sont chauffés avec des produits pétroliers ou du gaz naturel, et ça fait environ 15% des émissions québécoises.
Bon, est-ce que la taxe carbone, selon ce que vous voyez, ça fonctionne? Est-ce que les entreprises font, même si elles polluent, des démarches pour réduire les gaz à effet de serre? Quel est le portrait là, des efforts là, pour tenter de combattre les changements climatiques?
Ben, quand on regarde sur le terrain, depuis 5 ans, on stagne complètement. Il n'y a pas de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a eu la COVID, une petite parenthèse, où avec tout la baisse de l'activité économique et des transports, là, il y a une baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais on est vite revenu à la normale. Et depuis 5 ans, on n'a plus de progrès dans les réductions. Donc, le marché du carbone, le prix du carbone est un très bon signal, mais qui n'a pas encore mené véritablement à des changements. Mais on sait que d'ici 2030, le prix va exploser. Le gouvernement n'est pas très bon pour le communiquer, mais aujourd'hui, la tonne de carbone coûte $30 au Québec. Et elle va augmenter à 60, 70. Ça va sans doute dépasser les $100 la tonne d'ici 5 ou 6 ans. Et ça, on devrait vraiment se préparer parce que ça va faire mal aux industries, ça va faire mal aux automobilistes parce que ça sera des 10 cents, des 15 cents, des 20 cents de plus le litre d'essence. Et il faut que les gens le sachent pour se préparer, ne pas être pris par surprise.
Mais ça veut dire concrètement, là, puis je pense aux auditeurs en voiture ce matin, là, le litre d'essence à 2 $, là, c'est pas si loin que ça.
Non, c'est moi je prendrais un pari qu'avant 2030 on va y arriver et ça sera en partie parce que le prix du pétrole va rester élevé, mais surtout parce que le prix du carbone, du prix des émissions de gaz à effet de serre va faire en sorte que oui, ça, on va rajouter un 20 cents, un 30 cents le litre. On va y arriver plus rapidement qu'on ne croit parce qu'au Québec, on a des plafonds d'émissions. C'est des limites que le gouvernement a installées et qui descendent. Chaque année, on a de moins en moins le droit d'émettre des gaz à effet de serre. On appelle ça des droits d'émission. Et il y en a de moins en moins et la rareté va faire en sorte que les prix vont augmenter.
Bon, l'autre question, c'est que, et on est à la veille là, du sommet sur le climat de la COP26, de sommet en sommet, que ce soit Kyoto, Paris, les pays prennent une série d'engagements. Même le gouvernement du Québec est allé récemment d'engagements, des cibles à atteindre et on n'y arrive jamais. Comment vous dire? Quand on va regarder le prochain sommet, est-ce que on peut s'attendre à une stratégie qui soit réaliste, crédible, ou encore on va se bomber le torse en nous faisant croire qu'on a des cibles à atteindre assez rapidement dans le temps, alors que dans les faits, ça n'arrivera pas?
Je suis entièrement d'accord avec vous pour dire que ça n'est pas arrivé dans le passé. Il faut pas être défaitiste et dire que ça n'arrivera pas. Par contre, c'est un petit peu comme les résolutions du premier de l'an. Elles n'arrivent pas la plupart du temps, mais si on s'y met, si on décide, puis on s'engage réellement, puis on se donne des contraintes, on peut y arriver. C'est possible de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre au Québec, au Canada pour 2030. Ça demande beaucoup d'efforts. Ce sont des efforts qui sont possibles. Les technologies sont là. On sait qu'il y a des améliorations dans nos comportements qu'on fait réaliser, mais il faut accepter de se discipliner, de faire des efforts. Et c'est là où je partage un petit peu mon pessimisme. C'est parce que les gouvernements aujourd'hui, la population ne semble pas avoir le niveau de maturité pour accepter cette discipline-là et dire on va faire les efforts. Alors, les gouvernements sont très bons pour mettre des objectifs, mais ils sont pas très bons pour mettre les contraintes qui doivent forcément accompagner. C'est comme si on veut s'entraîner, il faut se lever le matin, il faut mettre son réveil le matin à 7 heures pour aller s'entraîner. C'est une contrainte. C'est une contrainte qui est bonne pour tout le monde et pour la personne qui suit la contrainte, mais c'est difficile. Même chose pour la lutte contre les changements climatiques, il va falloir accepter les contraintes. Le prix du carbone, c'est une contrainte. On l'accepte, mais on n'a pas encore intégré et on n'a pas encore anticipé son augmentation. Alors les gouvernements devront être plus clairs pour nous dire que il y a des contraintes qui s'en viennent. C'est faisable de les atteindre.
Monsieur Pinault, merci beaucoup. Bonne journée.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Pierre-Olivier Pinault est professeur titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
On apprenait hier que Jean-Luc Mongrain va créer son propre balado. Alors, nouvelle plateforme, rencontre avec des personnalités pour échanger directement, donc disponible sur le web. Il est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Paul, comment ça va?
Bien, bien, bien. Dis donc, comment tu as eu cette idée-là de dire « je passe en mode balado puis j'offre ça au monde »
Ça commençait, d'abord, tu sais, j'ai eu une page Facebook pendant la première vague de la pandémie. Là, il y a des gens qui ont dit, monsieur Mongrain, on aimerait ça vous voir sur des balados. Pourquoi vous prenez pas cette formule-là, etc.? Puis il y avait des gens qui suggéraient des invités. Puis vous devriez rencontrer un tel, puis un tel. Après ça, mon fils s'est mis là-dessus. Après ça, nous autres, on a regardé ça. Là, j'ai dit, puis c'est un peu aussi à cause de vous autres, là, Cogeco, 98.5. Vous m'avez ramené à la radio. Ça a éveillé chez moi un goût de communiquer. Alors donc, j'ai dit, tiens, on part ça. Mais c'est une formule qui est tellement récente et nouvelle que je l'ai partie avec de l'aide, évidemment, parce que honnêtement, là, sur les plateformes, je connais absolument rien. Je n'ai pas peur de plaider l'ignorance là-dessus. Là. Alors, j'ai pris des gens à titre conseil, puis on a ouvert une page sur sur YouTube qui va être là, et puis après ça, un site web, jeanlucmongrain.ca, puis après ça, on va être sur Spotify, puis bon, toutes ces plateformes-là. Alors, on va être audio-vidéo, alors les gens pourront, à leur choix, selon ce qu'ils font dans la vie, écouter en audio en faisant du jogging ou en faisant de la voiture, ou encore aller voir le même balado. Alors, c'est comme ça que c'est venu au monde. Puis c'est une formule que j'aime parce que, et tu en sais quelque chose, je t'ai déjà entendu faire ce commentaire, il n'y a pas d'arrêt. On parle pendant une heure et dix à un invité. Puis le principe de base, Paul, c'est on sait généralement ce que font les gens, mais on ne sait pas qui ils sont. Alors j'essaie de découvrir derrière les responsabilités, les engagements politiques, sociaux, culturels, qui sont ces personnes qui viennent participer à l'évolution puis au contexte de notre société québécoise.
Tu le disais, c'est un monde inconnu pour toi. T'es pas le genre de gars qui se lance dès qu'il y a une nouveauté technologique, un nouveau gadget, j'imagine. Là, tu regardes ça un peu.
J'ai regardé ça aller. Et puis, je me suis dit, bon, ben moi, je veux faire une formule qui fait en sorte qu'on n'est pas dans la controverse, on est dans la découverte. Moi, je pense qu'il y a eu une pollution, à mon point de vue, dans les réseaux sociaux de commentaires. Quand je l'ai fait sur Facebook, on mettait une politique, pas de censure, mais de bon goût. On a le droit à la critique, on a le droit à la dissidence, on a le droit à l'opinion, on n'a pas le droit à l'insulte, on n'a pas le droit à la bêtise. Alors ça, j'accepterai pas ça, c'est pas ma nature. Alors, donc, on met des règles comme ça. Le ton de ces balados est dans ce sens-là. J'aime mieux découvrir que d'attaquer. En fait, tu l'as fait déjà à la télé, des entrevues, oui, serrées à l'occasion, mais de comprendre et de saisir qui sont les gens et les motivations de leur engagement. Alors, c'est ce que je vais faire.
Mais tu vois, on vient de parler de Facebook et de ses algorithmes, ben oui, et des likes, puis là, la course aux likes, puis qu'il faut que mon site soit fréquenté. Toi, tu veux pas t'embarquer dans la course là à j'aime ou j'aime pas, puis que, tu sais, ça devienne, comme on dit, un événement sur la toile.
Non, parce que l'on veuille ou pas, cette course-là demande souvent une compromission, ou encore de pousser à l'extrême et à faire des clivages dans la société entre les gens. Il y en a qui choisissent donc de la haine et la hargne. Il y en a d'autres qui choisissent, je sais pas moi, d'aller de commentaires personnels et je t'aime et puis etc. etc. Moi, je suis pas là-dedans. J'essaye de rencontrer des gens pour le plaisir de les rencontrer et pour faire avancer un peu les choses. Je suis pas dans l'opinion, je suis pas dans l'éditorial, je suis pas dans la controverse, dans cette formule-là. Je suis dans la rencontre pour essayer de voir où on en est avec nos élites, où on en est avec nos dirigeants, où on en est avec la vie économique. Alors, je vais rencontrer des gens de tous les secteurs d'activité, puis ça sera pas du brassage. Pour du brassage, ça va être des idées et ça va être la découverte de profils d'individus qui font partie de notre société. C'est ça que je veux faire avec
ça. OK. Premier balado disponible demain. Qui est l'invité?
Ah, c'est bien parce que c'est toi, parce que je ne dirais pas sans ça. Mais tu le sais d'ailleurs, on t'a envoyé le
vidéo. Oui, mais c'est pour ça que je veux que tu le dises pareil. J'aime mieux que ce soit toi qui le dise comme moi.
Ah, c'est Gabriel Nadeau-Dubois.
Bon.
Et je dis « ah » parce que je viens de faire un accro à ce que nous voulons faire, parce que je veux que les gens soient en attente et qu'ils découvrent avec nous. Mais là, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, et vous allez rencontrer un gars qui est, même si vous appréciez pas ce qu'il représente, vous allez probablement découvrir un homme intéressant.
Jean-Luc, merci, ça commence demain.
Paul, merci beaucoup de ce temps. Merci bien, au revoir.
C'est Jean-Luc Mongrain.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.